Nous continuons donc notre étude un peu transversale et thématique de l'Évangile selon Luc. Donc je rappelle que nous avions vu lors des trois premières séances un aperçu un peu général de l'Évangile. Thibaut nous avait présenté le plan et les généralités sur l'Évangile. Puis Olivier, tu nous avais parlé du Fils de l'homme et de l'humanité de Jésus à travers l'Évangile. Et puis j'avais présenté aussi ces « il faut » qui scandent de nombreux chapitres de Luc. Nous abordons maintenant dans les trois séances qui viennent, c'est-à-dire ce dimanche, dimanche prochain avec Armand et puis le suivant avec Louis-Maël, un cycle sur les miracles de Jésus. Et ce que je vous propose, c'est sans attendre de lire le récit d'un miracle. Et j'ai choisi celui de la femme courbée, miracle qui est d'ailleurs particulier à l'Évangile selon Luc, puisque nous ne le retrouvons pas dans les autres synoptiques ni dans l'Évangile selon Jean. Nous lisons donc le récit de ce miracle, je lis dans la seconde 21. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle, immédiatement elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes. « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de cette chaîne le jour du sabbat ?» Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Mon propos ce matin ira au-delà de ce seul texte qui pourtant est assez emblématique et vous remarquerez que je ferai de temps en temps des allusions à telle ou telle phrase ou verset de ce texte en les mettant sur un fond jaune clair de façon à ce que vous puissiez les repérer. Mais mon propos était peut-être un peu plus général de, à partir de ce texte et puis d'autres, de regarder un peu comment nous pouvons accueillir les miracles de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus est un thaumaturge, alors ça c'est les 30 secondes, enregistrez votre vocabulaire. Un thaumaturge, c'est un faiseur de miracles. Et c'est une des caractéristiques du ministère de Jésus, puisque nous le voyons faire de fréquents miracles. Et quand, dans ce même évangile selon Luc, Jean-Baptiste en prison entend parler de tout ce que fait Jésus, Jean fut informé de tout cela par ses disciples, il en appela deux qu'il envoya vers Jésus pour lui dire « « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé vers Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour te demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes. À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais et il rendit la vue à bien des aveugles. Puis il leur répondit « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. » Les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Devant cette interrogation de Jean-Baptiste, Jésus répond en faisant des miracles qui attestaient la réalité de sa mission et de sa personne. Et c'est quelque chose que nous verrons un peu au cours de cet exposé. Plus tard, Pierre, qui avait suivi son maître pendant 3 ans et demi sur les chemins de Galilée et de Judée, dans le premier discours qu'il prononce le jour de la Pentecôte, dit aux Juifs qui l'écoutent, qui venaient non pas simplement de Jérusalem, mais de 15 pays, « Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. » Et quelques années plus tard, devant Corneille, que dit-il ? Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Quand Pierre rappelle ce que Jésus est et ce qu'il a fait, eh bien, immédiatement, il mentionne ces miracles, ces prodiges et ces signes que Jésus a accomplis sur la terre et qui étaient la preuve que Dieu était avec lui et qu'il avait reçu cette onction du Saint-Esprit. Comme nous venons de le lire, il est question de miracles, de prodiges et de signes. Et ici, vous avez un petit tableau qui reprend de façon très synthétique les miracles opérés par Jésus et il me semble que nous pouvons les catégoriser en deux. Il y a ce que j'appelle les miracles spécifiques. Alors typiquement, si nous tournons une page après celle de l'épisode de la femme courbée que j'ai lu au début, eh bien nous trouvons la guérison de l'homme hydropique. Un homme rempli d'œdèmes se trouvait devant lui, Jésus le toucha et le malade le guérit. Il s'agit du récit d'une guérison d'une personne bien spécifique. Mais nous trouvons également de nombreux sommaires. Que sont des sommaires? Eh bien typiquement, c'est ce que nous avons au chapitre 6, versets 17 à 19, où l'évangéliste résume en quelques phrases une activité de Jésus s'étendant sur toute une journée, sur toute une période. Typiquement, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Donc là, c'est ce que j'appelle un sommaire parce que nous trouvons un ensemble de miracles qui ne sont pas spécifiés. Et au contraire, c'est toute une foule de personnes. Si nous faisons un décompte un peu plus précis, nous nous apercevons que dans l'ensemble des quatre évangiles, nous trouvons 49 miracles, donc 35 spécifiques et 14 sommaires différents. Et dans l'évangile selon Luc, 20 miracles nous sont rapportés sur ces 35 et nous avons 6 des 14 sommaires que nous trouvons dans les 4 évangiles. Donc, à noter que Luc est un des évangélistes qui met un peu le moins l'accent sur les miracles. En pourcentage du texte, nous sommes à 13% contre 26% par exemple pour l'évangile selon Marc qui, lui, insiste beaucoup plus sur les miracles qu'opère Jésus. Et je laisse de côté ici les miracles qui sont opérés dans ce décompte hein, par les disciples de Jésus, puisque les 12 et les 70 envoyés par Jésus opéreront des miracles. Et je laisse aussi les deux miracles qui encadrent la vie même de Jésus, à savoir sa conception virginale miraculeuse et sa résurrection. Alors, ces miracles, nous pouvons les caractériser en quatre grands types. Il y a des guérisons. Donc des guérisons de maladies ou d'infirmités diverses et variées, la surdité, la paralysie, la cécité, etc. Nous avons aussi de nombreuses délivrances de démons, et nous y reviendrons. Nous avons des résurrections, et ce sera le sujet qui sera abordé la semaine prochaine. Et puis nous avons des actions sur la nature, d'ordre assez varié, ça peut être faire sécher un figuier tout de suite, ça peut être marcher sur les eaux, ça peut être multiplier les pains. Voilà, donc des actions diverses sur la nature qui nous sont rapportées aussi dans les évangiles. Et le vocabulaire que utilisent les auteurs pour rapporter ces miracles de Jésus, c'est un vocabulaire riche, avec des termes qui sont proches les uns des autres, mais qui ne sont pas rigoureusement synonymes. Le miracle, c'est dynamis, c'est un acte de puissance, dans le sens du mot. Un prodige, c'est un acte sortant de l'ordinaire. Et, chose intéressante, les prodiges sont toujours associés aux signes. C'est un acte sortant de l'ordinaire, mais porteur de sens aussi. C'est-à-dire que Jésus n'agit pas juste comme ça pour surprise. Quoi. C'est l'acte sort de l'ordinaire, mais parce qu'il est porteur de sens, et les auteurs juxtaposent toujours les prodiges et les signes. Et, plus rarement, nous trouvons des expressions comme les merveilles. Donc, c'est un acte étonnant. Ou les choses extraordinaires, c'est un acte difficile à croire. Alors, à trois reprises, dans le Nouveau Testament, miracles, prodiges et signes sont rassemblés, et c'est sans doute les mots qui sont les plus fréquemment utilisés dans le Nouveau Testament pour désigner ce que fait Jésus. Donc, rappelons-nous, c'est quoi un miracle? C'est un acte de puissance qui sort de l'ordinaire, qui a du sens, qui est étonnant, mais qui est parfois aussi difficile à croire. Alors, disons tout de suite sans attendre que les miracles ont une utilité limitée. Et dans cet évangile, il y a un récit qui n'est pas un récit de miracle, mais qui est une pseudo-parabole, celle du riche et de Lazare, qui se termine par cette expression qui, je trouve, est très importante, parce que le riche, dans les tourments, dit à Abraham, ben, envoie Lazare pour prêcher à mes frères, comme ça ils ne viendront pas dans ce lieu de tourment. Et Jésus répond, enfin, Abraham répond, et donc on peut le prendre pour Jésus, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Et donc, ce que nous trouvons au travers des évangiles, c'est que les miracles suscitent souvent l'admiration, mais parfois ils renforcent l'incrédulité. Et nous avons le texte de Jean chapitre 12, verset 37, que je vais lire, parce qu'il conclut le développement que Jean fait du ministère de Jésus. « Malgré tous les signes qu'il avait produits devant eux, ils ne mettaient pas leur foi en lui, de sorte que soit accomplie la parole du prophète Ésaïe qui a dit « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons entendu dire et à qui le bras du Seigneur a-t-il révélé ?» Et s'ils ne pouvaient pas croire, c'est qu'Ésaïe a encore dit « Il a rendu leurs yeux aveugles et leur cœur obtus, pour qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, pour qu'ils ne comprennent pas avec leur cœur et qu'ils ne fassent pas demi-tour, je les aurai guéris. » Donc, nous voyons aussi dans ce même évangile que Jésus, au chapitre 10 de l'évangile selon Luc, prononce des paroles très dures sur certaines villes. « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui avaient été faits au milieu de vous auraient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, et s'étant assises dans le sac et la cendre. » Donc le miraculeux en tant que tel, ce n'est pas ce qui a permis à Jésus d'avoir du succès. D'ailleurs, Jésus a-t-il eu du succès? Combien était-il quand Jésus ressuscité laisse ses disciples? 120? 500 peut-être, ceux qui sont arrivés, qui se sont retrouvés en Galilée avec lui? Pas beaucoup, quelques centaines. Alors qu'il y avait eu des milliers et des milliers de personnes guéries, nourries par les miracles. Vous voyez, les miracles, il ne faut pas s'attendre à ce que les miracles suscitent nécessairement la foi. Je vous propose donc, au cours de cet exposé, d'aborder 9 questions. Alors, vous me direz, il y a des questions que je ne me pose pas. Alors, peut-être que si je vous les montre, vous allez vous les poser. Et puis, il y a peut-être une 10e question qui n'est pas dans cette liste et qui sera pour la prochaine fois. Mais nous allons donc regarder successivement ces 9 questions en essayant de voir dans le récit que j'ai lu au début quelques points d'attache, mais pas forcément pour toutes les 9 questions. Alors la première question, je vais y passer peut-être un peu plus de temps, même si le but n'est pas ce matin de faire un exposé d'apologétique, c'est les miracles sont-ils crédibles? Et face à cette question, on oppose souvent 3 types d'arguments, des objections scientifiques, philosophiques ou historiques. Alors par rapport à l'opposition scientifique, souvent on peut dire, attendez, vous êtes bien gentil, mais... Là, on était au 1er siècle. Aujourd'hui, vous avez vu la science, les progrès qu'elle a fait. Comment peut-on croire encore aux miracles? À l'époque, ils étaient crédules, ils étaient imprégnés de surnaturel. Aujourd'hui, la science a prouvé que les miracles sont impossibles. Alors, ce qu'il faut quand même noter, c'est que les gens n'étaient pas si incrédules que ça, et si incultes que ça. Parce que sinon, ils n'auraient pas été étonnés. Si pour eux, le surnaturel, le merveilleux faisait partie du quotidien, ils n'auraient pas trouvé les actes de Jésus absolument incroyables. Est très étonnant. Deuxième argument, je les balaye rapidement, ça mériterait un exposé en tant que tel, mais croire au miracle n'attente pas à l'intégrité de la science, mais ça attente à l'intégrité de la science de prétendre à tout expliquer et de raisonner donc ce qu'on appelle en système clos. Parce que la science ne peut qu'étudier les événements réguliers ou prédictibles. C'est la méthode expérimentale que Claude Bernard a établie au 19e siècle. Et en plus, on a de bons arguments pour prouver que le naturalisme est incapable, le naturalisme, c'est-à-dire que tout s'explique par le fonctionnement de la nature, hein, est incapable de tout expliquer, en particulier la conscience de soi. Et pour ceux qui souhaiteraient creuser ce sujet, je les encourage à lire un livre de C.S. Lewis qui s'appelle « Miracle », tout simplement, et qui développe avec le brio de cet auteur, qui est un apologète extraordinaire, en particulier ce point-là. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la science... ça marche si on peut répéter l'expérience, mais on peut trouver quand même un sujet, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'expérience que c'est pas prouvé, Et ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas prouvé que ce n'est pas possible, et ce n'est pas parce que ce n'est pas possible que ce n'est pas crédible. Donc il faut quand même aller un peu au-delà. La seconde objection, c'est l'objection philosophique. Alors par certains points, elle se rapproche de la première, et elle a été surtout développée par ce monsieur qui a l'air très content de lui-même ici, qui s'appelle David Hume, et qui est un philosophe des Lumières du XVIIIe siècle, et qui a particulièrement développé ce point que, d'un point de vue philosophique, les miracles étaient inacceptables. Parce qu'ils sont une violation inacceptable des lois de la nature, ils sont improbables, et puis les miracles, on en trouve dans toutes les religions, or les religions sont irréconciliables, donc les miracles ne sont pas crédibles. Alors, tout d'abord, on peut dire que si Dieu existe et qu'il est le créateur, ben, il peut intervenir s'il le juge bon. On a parfois fait l'analogie avec quelqu'un qui crée une pièce de théâtre, la pièce de théâtre se joue, et puis l'auteur arrive en disant: « Non, 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 attendez, là, vous avez mal compris la didascalie, il faut procéder de façon un peu différente. » Et ce n'est pas incongru. Et puis, il existe des signes noirs. C'est vrai qu'on peut penser que la science a tout expliqué aujourd'hui. Mais non, vous savez, l'histoire du signe noir, on pensait que tous les signes étaient blancs, et puis jusqu'à ce qu'en Australie, on découvre un signe noir. Ah ben oui, effectivement. Pourtant, toutes les expériences jusque-là avaient montré que tous les signes étaient blancs. Et puis, on peut dire que par rapport au troisième argument, c'est qu'il y a une singularité du christianisme, c'est que le christianisme, quelque part, il repose sur un miracle. Paul dit avec force que si nous ne croyons pas en la résurrection, notre foi est vaine, s'effondre. Le christianisme s'effondre. Et la résurrection est le miracle par excellence, c'est pour ça qu'il vaut la peine d'y consacrer une séance la semaine prochaine. Et puis la dernière objection, c'est que l'objection historique, un historien ne peut pas accepter comme fait historique la narration d'un fait du passé pour lequel il ne trouve aucune analogie dans le présent. Alors ça, ce principe est critiquable parce que on ne va pas reproduire dans le présent ce qu'a fait Napoléon ou que sais-je. Et puis, on peut remarquer aussi qu'il y a quand même des miracles qui se produisent aujourd'hui. Et des historiens comme Joseph, on peut critiquer peut-être Joseph sur des critères d'historien actuel, mais enfin, il a quand même fait une œuvre qui est très pertinente. Eh bien, ils ont accrédité Jésus comme faiseur de miracles. Et il était reconnu dans son temps, y compris par des gens qui n'étaient pas dans la sphère chrétienne, comme étant quelqu'un qui avait fait des miracles. Il me semble donc, et on devrait développer largement ce point-là, mais j'en reste là pour le moment, qu'on peut dire que les miracles sont crédibles. Deuxième question, pourquoi Jésus fait-il des miracles? Parce que Jésus était venu pour annoncer le salut et pour donner sa vie pour sauver le monde. Donc pourquoi était-il besoin qu'il parsème son ministère de miracles? À la limite, on aurait pu dire, ben, ça attirait l'attention sur lui. D'ailleurs, on voit qu'à plusieurs reprises, Jésus dit à ceux qui bénéficient de ces miracles: Oh, surtout, vous n'en parlez pas. Puis eux, ils en parlent quand même, hein, bien souvent. Mais bon. Donc, pourquoi Jésus fait-il des miracles? Pourquoi est-il nécessaire qu'il fasse des miracles? Eh bien, parce que c'était ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament, que, alors on pourrait trouver de nombreux textes, mais que le Messie, quand il viendrait, ferait des miracles. Et d'ailleurs, les Juifs se posent des questions. Et le Christ, quand il viendra, fera-t-il autant de miracles que celui-ci? C'est bien qu'il y avait cette conception au premier siècle que le Christ devait faire des miracles. Et c'est comme cela que Jésus de Nazareth, pourquoi Pierre dit-il Jésus de Nazareth? Ben oui, celui que vous n'avez pas reconnu, que vous avez un peu méprisé, eh bien c'est cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'a prouvé en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires. La traduction du Semeur est particulièrement pertinente, je trouve, pour donner ce sens. Deuxième raison pour laquelle Jésus fait des miracles, c'est pour accréditer ses paroles. Et on voit bien que dans la réponse qu'il fait à Jean-Baptiste, que nous avons déjà lue, eh bien, il dit, tu vois, Jean, eh bien, je fais tout cela et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Parce que ces miracles confirment. Et ce sera le cas aussi pour les apôtres. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 2 que l'Esprit-Saint accréditait la parole de ceux qui annonçaient l'Évangile par des signes et des miracles et des prodiges. Et c'est pour cela que Pierre, puis Paul en particulier, seront eux aussi des thaumaturges de premier rang. Troisième raison, et c'est Jésus lui-même qui l'a dit, j'aurais dû le mettre en rouge, désolé, pour montrer que le royaume de Dieu est là. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et les miracles, c'est l'irruption du royaume de Dieu dans le monde déchu où nous vivions. Et puis, dernière raison pour montrer qui il était, Dieu. Et c'est frappant de voir que plusieurs des miracles, en particulier les miracles que Jésus remplit par rapport à la nature, eh bien, suscitent cette interrogation, qui c'est celui-là ? Par exemple, quand il calme la tempête, Jésus se réveilla, menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit, où est votre foi ? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, qui donc est cet homme ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau et lui obéissent. Et dans un autre épisode parallèle, les disciples diront, mais tu es le Fils de Dieu. Donc Jésus accomplit des miracles pour montrer qu'il est le Messie, pour accréditer ses paroles, pour montrer que le royaume de Dieu est là, et pour montrer qui il était, Dieu lui-même, puissant. Troisième question, comment Jésus accomplit-il ses miracles ? Alors nous avons eu l'exemple de cette femme courbée, et il posa les mains sur elle, immédiatement elle se redressa. Alors ce qui est frappant dans les évangiles, c'est que Jésus, ce n'est pas un spécialiste. Ce n'est pas un spécialiste du dos, de la rate, ou ce que vous voulez. Il guérit tout, quel que soit le type de problème. Et par exemple, dans le sommaire que Matthieu donne au début de son évangile, guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs. Et puis, bien souvent, on voit que Jésus guérit sans sélectionner les personnes. Comme dans le sommaire, chapitre 6, verset 19, il les guérissait tous. Tous. C'est pas, je choisis les uns ou les autres. Et puis, quelle que soit l'ancienneté du problème, là, la femme, ça faisait 18 ans qu'elle était courbée. Pas un problème du tout. Et aussi, sauf exception, alors il y a des miracles en deux phases, mais enfin, c'est quand même l'exception, eh bien, dans la quasi-totalité des cas, ce qui frappe, c'est que Jésus guérit immédiatement. Immédiatement, elle se redressa. Et enfin, la dernière caractéristique de Jésus, c'est qu'il guérit par sa propre autorité. Par exemple, chapitre 7, verset 14, quand il ressuscite le fils de la veuve de Naïm, il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Les apôtres et les délégués des apôtres dans les livres des actes accompliront des miracles au nom de Jésus. Mais Jésus, lui, accomplit en son propre nom, dans la pleine autorité qu'il a de fils de Dieu et de fils de l'homme. Donc Jésus accomplit ses miracles selon ses caractéristiques, et ces caractéristiques accréditent le fait que ce sont vraiment des miracles. Et cela, quelle que soit la gravité du mal, je rappelle que ce n'est pas simplement restaurer une situation antérieure, ça peut être aussi recréer. L'aveugle né n'avait pas vu depuis le ventre de sa mère. Et on a d'autres exemples dans les évangiles où justement les évangélistes pointent le fait que Jésus agit pour susciter une fonction, par exemple, qui n'avait jamais existé jusque-là. Quatrième question, pourquoi y a-t-il tant d'exorcismes dans les évangiles ? Outre les guérisons, nous avons vu qu'une des quatre catégories de miracles, c'était aussi les exorcismes. Et on peut se demander, mais c'est très fréquent. Quand on regarde les sommaires, on voit que les rappels des exorcismes de Jésus sont aussi fréquents que le rappel de ses guérisons. Alors ce qui est bien important de noter, c'est que ce sont des actes distincts. Là, par exemple, chapitre 9, verset 1, « Pour chasser tous les démons et guérir les maladies. » Il n'y a pas de confusion entre les deux. Et on peut remarquer aussi que ce sont des actes très nombreux. Nous le dit le sommaire du chapitre 4, verset 41, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes. Alors, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi y avait-il tant de démons vers l'an 26 à 30 en Palestine ? Est-ce qu'aujourd'hui aussi, il y en a aussi beaucoup parmi nous ? C'est un peu compliqué à comprendre. Alors, je suis pour ma part assez persuadé du fait que Satan a eu une activité redoublée parce que il savait bien qui était là, et les démons aussi le savaient, et même ils s'en inquiétaient. « Es-tu venu avant le temps pour nous tourmenter, Jésus, le Fils de Dieu ?» On voit bien qu'à plusieurs reprises, les démons interpellent Jésus, et il me semble que ces actes témoignent de la lutte redoublée qui s'est toujours produite entre Satan qui œuvre contre les œuvres de Dieu, mais là de façon particulière parce que le Fils de Dieu était venu sur cette terre. Déjà, on pense à Satan, qui était sans doute derrière Hérode quand il fait assassiner tous les petits-enfants de Bethléem, quand il lutte contre Jésus au désert, et puis plus tard, bien entendu, quand il rentrera dans le cœur de Judas pour l'inciter à livrer son maître. Mais entre-temps, bien les 70 qui avaient fait beaucoup d'exorcismes revinrent tout joyeux et dirent: « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit: « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et plus tard, quand on l'accuse de chasser les démons par le chef des démons, c'est bien donc qu'il y avait cette activité très importante d'exorcisme de la part de Jésus, et les chefs religieux, qui sans doute ne pouvaient pas en faire autant, hein, même s'il y avait une activité aussi d'exorcisme juif à l'époque, reconnue, eh bien, qui étaient incapables d'en faire autant, finalement, jaloux de Jésus, disent: ben, tu chasses les démons par le chef des démons. Et Jésus leur répond: mais c'est pas possible. Mais il continue en disant: si un autre plus fort que lui survient, hein, à propos de l'homme fort qu'elle y est, et le maîtrise et lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait, il distribue ses biens aux autres, à d'autres. Donc on voit que Jésus, c'est cet homme plus fort que le diable, et donc il est venu pour montrer que le diable n'était pas le plus fort. Mais on reste quand même frappé du nombre d'exorcismes que nous trouvons dans les évangiles, parce que c'était une. Un redoublement d'activité, me semble-t-il, du diable qui voulait se montrer alors que le Fils de Dieu était sur la terre. Cinquième question, quel est le lien entre la maladie et la possession? Question délicate que notre miracle d'aujourd'hui nous oblige à aborder, puisqu'il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et plus tard, Jésus dira à cette femme que Satan tenait attachée, ne fallait-il pas la délivrer ou la détacher de cette chaîne le jour du sabbat? Alors, remarquons que Jésus agit de façon très différente entre les malades et les possédés. Pour ceux qui étaient des malades, il guérit, pas systématiquement, mais très souvent en posant les mains, en ayant un geste vis-à-vis du malade. Tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent, il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Le lui montrant bien que c'était bien individuel, chapitre 4, verset 40. Par contre, quand Jésus est confronté à une personne possédée, il ne va pas la toucher. Il va ordonner à l'esprit impur de sortir. Il va donner un ordre. Donc on voit que c'est bien, bien différent. Et rarement nous trouvons un lien direct entre la maladie et la possession. Il y a des exemples, mais c'est quand même relativement rare. Par contre, on comprend que à l'époque, quand il y avait, ceux qui ont fait des recherches le disent, c'est que quand une personne avait une maladie qu'on ne savait pas trop décrire ou dont on ne comprenait pas bien les tenants et aboutissants, par exemple, ça pouvait être comme cette femme courbure, eh bien, on pouvait l'attribuer facilement à un esprit, avec petit e, hein, à un esprit qui la rendait infirme. Mais on voit bien que dans ce cas-là, eh bien, Jésus posant la main sur cette femme courbée, ne pense pas qu'elle est un démon. Il ne chasse pas un démon de cette femme. Donc ça nous permet de faire la distinction entre la maladie et la possession. Et je pense que personne ici, quand quelqu'un est malade, lui dirait bah, tu es possédé. Quoique, parfois, ça peut arriver qu'il y ait eu dans l'histoire de l'Église des abus par rapport à cela. Mais qu'est-ce que cela nous montre? Et pourquoi Jésus dit-il cette femme que Satan tenait attachée depuis 18 ans? Désolé, c'est parti derrière l'image. Eh bien, c'est parce que toute maladie et la mort, bien entendu, ont leur source dans le pouvoir que Satan a pris, ce pouvoir que combat Jésus. Que nous dit par exemple l'auteur de l'Épître aux Hébreux par rapport à la mort? Hébreux 2, verset 14, nous dit il rendit impuissant par la mort celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors, est-ce que ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, c'est le diable qui le fait mourir? Non. Mais ça veut dire que le diable a introduit le péché dans ce monde en séduisant Adam et Ève, et ce faisant, il a un pouvoir, et ce pouvoir se manifeste par le fait que eh bien, les conséquences du péché étant la mort, les gens peuvent mourir, et avant de mourir, ils peuvent tomber malades, et risquent très souvent de tomber malades. Puisqu'en fait, quand on est malade, eh bien, l'antichambre de la mort. Hein. Voilà, parce que c'est rare que quelqu'un meure sans avoir rien eu de physiologique, n'est-ce pas? Donc toute maladie et la mort ont leur source dans le pouvoir pris par Satan et combattu par Jésus. Et puis aussi, toute guérison est une libération. C'est dans ce sens-là que Jésus parle de délivrer de cette chaîne cette femme. Parce que le fait de marcher courbé pendant 18 ans, c'est quand même un drôle de problème. Et là, c'est une libération. Et l'apôtre Jean dira bien des décennies plus tard, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Donc toutes ces délivrances, ces guérisons que Jésus opérait avec tant de puissance, eh bien, c'était une libération de ce qui est l'influence directe ou indirecte du diable. Et bien souvent, plutôt une influence indirecte, puisque c'est en conséquence du péché que nous sommes malades. Alors, la question se pose du coup, est-ce qu'une maladie est la conséquence d'un péché particulier? Parce que si on est malade, c'est parce que, on a fait quelque chose de mal. Alors, la réponse en général, c'est non, et un non assez clair. Et Jésus, dans l'évangile selon Jean, dit à ses disciples qui lui posaient la question, Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Jean chapitre 9, versets 2 et 3. Donc, en général, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il est impossible, et souvent très méchant, de dire à quelqu'un qui est malade, si tu es malade, c'est que tu as commis un péché. C'était un petit peu le discours des amis de Job, n'est-ce pas? Que Christophe nous avait présenté il y a 15 jours. Ouais, tu arrives plein de problèmes, donc il y a sans doute un péché caché quelque part dans ta vie. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être peut surgir dans notre esprit, ici ou là. Ah, il a bien cherché quand même. Eh bien non. Non, non, c'est parce que, eh bien, au travers même, et cette expression est assez surprenante, hein, au travers même des situations difficiles de vie, comme celle d'être né aveugle, que Dieu permet dans sa souveraineté, mais qui sont la conséquence du péché, eh bien, la gloire de Dieu, les œuvres de Dieu peuvent être révélées. Néanmoins, vous voyez, c'est là où il faut se garder d'absolutiser les choses. Il peut y avoir des cas particuliers où une maladie est la conséquence d'un péché particulier. Et dans le même évangile selon Jean, chapitre 5, dans l'histoire de la guérison de l'infirme du réservoir de Bethesda, qu'est-il dit? Ben, Jésus retrouve dans le temple ce paralysé qui était là depuis 38 ans et qu'il venait de guérir. Il lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, dans le cas particulier de ce monsieur, effectivement, Jésus fait un lien direct entre le fait qu'il avait cette paralysie et un péché qu'il avait commis. Ce que nous pouvons dire et affirmer, c'est que la maladie témoigne en général de l'état pécheur de l'être humain, du péché en général. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous devons souligner, c'est que la maladie n'est pas intrinsèque à notre humanité, c'est intrinsèque à notre humanité en chute. Mais nous savons que nous attendons la transformation de notre corps en une humanité pleinement existante, mais qui sera marquée par l'absence définitive de toute maladie demain. Et chose intéressante, pour revenir à notre texte de notre femme courbée, c'est que si vous regardez le début du chapitre 13 de l'évangile selon Luc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'histoire, vous savez, des gens que Pilate avait massacrés, et puis de la tour de Siloé qui était tombée, etc. Et la question de Jésus, c'est est-ce qu'ils étaient plus coupables? Ben non. Est-ce que cette femme-là, parce qu'elle était courbée, était plus coupable que le chef de la synagogue qui avait l'air d'être en assez bonne santé? Eh ben non. Non, elle n'était pas plus coupable. Mais, comme Jésus conclut, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez tous également. Donc ici, ceux qui sont en bonne santé, comme ceux qui sont malades, eh bien, ils vont tous mourir un jour ou l'autre, pareillement, et même mourir de la seconde mort, s'ils ne tournent pas leur regard de foi vers celui qui peut guérir définitivement, pas simplement les conséquences du péché, mais la racine même d'où il vient. Septième question, guéri ou sauvé? Alors là, nous avons affaire à l'ambiguïté du terme. Pourquoi? C'est parce que le même verbe sozo est utilisé pour désigner quelqu'un qui est guéri ou quelqu'un qui est sauvé. Et de sorte que parfois, vous remarquerez, suivant les traductions, vous avez ta foi t'a guéri ou ta foi t'a sauvé. Alors, est-ce que c'est la même chose? Et je pense que c'est volontaire. Alors, si nous prenons par exemple le récit des 10 lépreux qui ont été guéris, vous savez, 10 lépreux ont été guéris, puis il y en a un qui est revenu, et qui a, un samaritain, et qui a donné hommage à Jésus. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Jésus lui dit, lève-toi, parce qu'il se prosterne à ses pieds, vas-y, ta foi t'a sauvé. Les 10 avaient été guéris auparavant, mais celui-là avait rajouté la foi à la guérison. Et c'est pour cela que Jésus peut dire, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Alors, dans les évangiles, on peut se demander, est-ce que il faut avoir un acte de foi pour que Jésus guérisse? Nous remarquons que dans les évangiles, il y a de nombreuses guérisons qui sont suscitées par des actes de foi. C'est soit l'acte de foi du malade, par exemple, typiquement, la femme là qui touche le bord du vêtement de Jésus, quand Jésus est sur le chemin pour aller guérir, ressusciter la fille de Jaïrus. Mais cette femme qui avait la perte de sang, eh bien, elle a cet acte de foi, puisqu'elle dit, peut-être en m'approchant par derrière, si je touchais le bord de son vêtement, je serais guérie. Eh bien oui, elle a cet acte de foi que celui qui passe là, avec toute cette foule autour de lui, eh bien, il est capable de la sauver. Et c'est ce que Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, pars en paix. Mais de notre côté, on trouve aussi parfois que ce sont les amis du malade. Et on a l'exemple magnifique de ces amis du paralytique, vous savez, Jésus était dans une maison, une fois il monte par le toit et puis il descend de le paralytique parce qu'il y avait trop de monde pour l'amener au pied de Jésus, donc il le descend par le toit. Et Jésus, voyant leur foi, et dans le texte, tout laisse penser que la foi dont il est question ici, c'est la foi des amis. Et Jésus lui dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Puis après, il y a toute une polémique derrière. Donc ça, c'est une première catégorie de guérison et de miracles qui sont suscités par des actes de foi de celui qui en est le bénéficiaire. Mais d'un autre côté, nous trouvons aussi des nombreux récits où les guérisons sont souverainement accordées par Jésus. Et typiquement, dans notre récit, nous ne voyons pas que cette femme courbée, qui était dans la synagogue, ait fait une quelconque démarche vis-à-vis de Jésus pour être guérie. Elle ne s'est pas écriée comme les Bartimée, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Non, non. C'est lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et donc, il y a ces deux côtés. Dieu guérit, Jésus guérit en réponse à la foi qui a été montrée par le malade ou alors quelqu'un autour. Hein, on pense en particulier le père d'un enfant qui était possédé, eh bien, c'est lui qui fait la démarche, la femme syrophénicienne par rapport à sa fille, c'est elle aussi qui fait la démarche, ou la personne, bien entendu, elle-même, qui se met au pied de Jésus pour demander la délivrance. Mais d'autres fois, eh bien, c'est Jésus qui souverainement pose le regard sur telle ou telle personne pour lui accorder cette guérison. Donc, guéri ou sauvé, eh bien, nous revoyons que ce terme qui est ce mot qui peut être traduit des deux manières, parfois ça coïncide, parfois ça ne coïncide pas nécessairement. Et que Jésus peut agir aussi souverainement pour guérir et sauver. Et donc, vous voyez, c'est intéressant parce que les miracles, quelque part, ils sont là comme signe de ce qui se passe à l'intérieur. On le dira, le plus grand miracle, eh bien, c'est celui d'amener quelqu'un à la foi. Et qu'il croit. Et de la même manière, par rapport au salut, il y a à la fois la démarche de foi personnelle de la personne, et il y a aussi l'action souveraine de Dieu. Vous voyez, on peut faire aussi l'analogie avec ce qui se passe pour un miracle. La huitième question, c'est pourquoi Jésus guérit-il si souvent le jour du sabbat? On a l'impression, quand on lit les évangiles, que Jésus prend un malin plaisir à guérir les gens le jour du sabbat. Et puis, bien entendu, chaque fois, ça fait polémique. Alors, le récit que nous avons lu, c'était bien ça. Hein, chef de la synagogue, il est indigné que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat. Il dit à la foule, bah, venez les 6 autres jours, mais pas le samedi. Samedi fermé pour les miracles. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand il y a des faiseurs de miracles, ils vous invitent au nouveau hôtel de Boulogne le samedi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, Jésus, est-ce que c'est pourquoi il y a tant de miracles le jour du sabbat? Alors, d'abord, il y a ce que j'ai appelé le biais du jour des polémiques. Pourquoi? Parce que le jour du sabbat, c'était le jour où les gens se retrouvaient. Donc, forcément, il y avait du monde ce jour-là. Donc, c'est pas illogique qu'il y ait eu des désirs de guérison ce jour-là. Et puis, peut-être, alors, les évangiles ne nous permettent pas peut-être d'être péremptoires sur ce point, mais je pense que Jésus aussi s'attachait à guérir en particulier le jour du sabbat pour démontrer un certain nombre de choses. Et par rapport à l'homme hydropique dont il est question quelques versets après le récit de la femme courbée, Jésus tourne la phrase, cette fois-ci il ne guérit pas l'homme avant, mais il pose la question, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Et alors c'est intéressant de voir ce qui se passe, ils se turent. Et alors Jésus, l'ayant pris, le guérit et le renvoya. Et puis, il leur cite exactement le même exemple que celui qui venait de citer peu avant au chef de la synagogue. « Attendez, regardez ce que vous faites, vous, le jour du sabbat. » Donc, ce faisant, par ses guérisons le jour du sabbat, Jésus se place au-dessus de la loi. Et une loi qu'ils étaient incapables d'accomplir. Puisqu'on voit ici que Jésus les traite d'hypocrites. C'est quoi un hypocrite? C'est quelqu'un qui dit qu'il fait quelque chose parfaitement bien. Et le chef de la synagogue disait, et puis... dans le chapitre d'après, c'était les docteurs de la loi et les pharisiens. Le professeur de la loi et les pharisiens, ils disent, ben nous, on observait parfaitement la loi. Ben non, regardez la preuve, vous savez bien que vous allez mener votre âne, etc. Donc Jésus se place au-dessus de la loi pour montrer qu'elle était incapable d'être accomplie parfaitement. Et puis, surtout, les miracles sont des signes de l'irruption du royaume de Dieu et du nouvel ère. Dans Hébreux chapitre 6, verset 5, il est question des miracles du siècle à venir. Et les miracles de Jésus, c'est ça. Quand il est question de multiplier les pains, eh bien ça nous parle de cette satiété que Jésus prépare pour l'éternité à ses rachetés. Quand il est question de guérison, ça nous parle de ce jour où il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni deuil, ces choses seront passées. Quand Jésus chasse des démons, ça nous parle de ce jour où le diable sera jeté dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort et il n'en sortira plus jamais. Vous voyez à quel point, et quand il ressuscite, eh bien, ça nous parle aussi de cette vie éternelle qui sera l'apanage de ceux qui auront cru en lui. Donc les miracles, c'est l'irruption du royaume de Dieu et du nouvel ère. Mais, comme souvent nous le disons ici, c'est le déjà et pas encore. S'attendre à ce que les miracles soient systématiques, c'est se croire déjà dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est penser qu'on ne pourra plus mourir, qu'on ne pourra plus jamais être malade? Non. C'est des guérisons que Dieu peut accorder, c'est des petits signes avant-coureurs d'une réalité ultime dans laquelle nous ne sommes pas aujourd'hui. Et donc, nous ne pouvons pas nous attendre à la systématicité des miracles. En tout cas, d'ailleurs, on se demande s'il faudrait toujours parler des miracles, s'il est devenu systématique. Et quand, dans le contexte aussi de ce récit de la femme courbée, si vous lisez la suite... Parce que là, j'ai bondi sur la péricope de cette femme sans regarder ce qui était avant et après. Donc avant, il y avait l'histoire de ceux qui étaient plus coupables ou moins coupables. Mais après, il est question de deux petites paraboles que l'évangéliste Luc place opportunément à cet endroit-là. L'histoire de la graine, du grain de moutarde et l'histoire de la mesure de levain que la femme met dans le pain, qui gonfle. Et donc ça nous montre que pourquoi Luc met-il ces deux récits que Jésus a peut-être donné à un autre moment, juste après. C'est que, pour nous montrer qu'en fait, ce royaume de Dieu, dont la guérison de cette femme était quelque part un signe, un signe avant-coureur, eh bien que ce royaume de Dieu allait grandir progressivement et qu'un jour, il serait dans sa plénitude. Dernière question, que produisent les miracles? Et alors là, ce que produisent les miracles, c'est d'abord une délivrance. J'aimerais que nous pensions à cette femme. Cette femme, ça faisait 18 ans qu'elle était courbée. À Viroflay, ça fait quelque temps que je ne l'ai pas vue, je ne sais pas si elle est décédée, mais il y avait une dame qui habitait un peu au-dessus de chez nous, que je voyais assez souvent le samedi matin aller au marché. Elle était comme ça, vraiment courbée. Et elle tirait sa petite poussette à marcher là. Mais je me disais, mais s'il avait été là et qu'il puisse poser les mains sur elle et qu'elle se redresse. Elle me faisait pitié, cette femme. Et cette femme, après 18 ans, pendant 18 ans, elle avait perdu l'espoir sans doute d'être jamais guérie. Eh bien, il arrive. Il prêche dans la synagogue. Pourquoi était-elle allée dans la synagogue? Elle n'avait pas l'air d'être la bienvenue, hein, si on en juge d'après les propos du chef de la synagogue juste après. Mais peut-être qu'elle avait encore cet espoir de rencontrer Dieu et Jésus qui est là. Et combien souvent nous avons dans les évangiles cette expression remplie de compassion. Jésus toucha leurs yeux. Là, il s'agit pour les aveugles, des gens qui ne voyaient pas. Et donc c'est d'abord une délivrance. Et dans les miracles aussi, nous voyons, me semble-t-il, d'abord et avant tout, le cœur de notre Seigneur. Le cœur de notre Seigneur pour ceux qui sont dans les difficultés, dans les tristesses. Et c'est souvent d'ailleurs des laissés pour compte, et c'est souvent d'ailleurs dans l'évangile selon Luc que l'évangéliste met l'accent sur des miracles qui ont été faits vis-à-vis de gens qui étaient des petits, des peu considérés, etc. La veuve de Naïn, la femme courbée, le samaritain lépreux. Les autres évangiles en parlent moins. Et la sélection que fait Luc de ces miracles pour les laisser pour compte montre cette compassion dont Jésus a su faire preuve pendant tout le long de son service. Que produisent les miracles? Dieu est glorifié. Là aussi, devant, on voit les foules qui sont émerveillées et qui rendent gloire à Dieu à plusieurs reprises. Et même là, cette femme, immédiatement, que fait-elle? Son premier geste, c'est de célébrer la gloire de Dieu qui avait permis qu'elle soit délivrée. Et ceux qui sont autour, bien souvent aussi, les foules qui sont autour de Jésus et qui voient les miracles, s'en réjouissent, glorifient Dieu. Et là, dans cet épisode, la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Mais ces miracles ne touchent pas malheureusement tout le monde. Et les opposants de Jésus sont soit honteux, ici, soit furieux. Quand ils entendent parler de cette résurrection de Lazare au bout de 4 jours, eh bien, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut lui faire son compte. Et donc, comme je le disais, le miracle, par lui-même, n'a pas la capacité à toucher les cœurs. Au contraire, il peut les endurcir encore plus. Et dans ce sens-là, les miracles, c'est un peu comme les paraboles. Quand nous étudierons les paraboles, nous verrons que les paraboles de Jésus, soit elles éclairent, soit elles endurcissent. Et les miracles, c'est exactement pareil. Alors en conclusion, je vous invite à accueillir les miracles de Jésus. Accueillir les miracles de Jésus dans leur réalité historique. Je ne pense pas qu'on puisse avoir confiance en Jésus si on n'a pas cette foi dans les miracles qu'il a accompli. Parce que, comme le disait C.S. Lewis, eh bien, c'était soit un mensonge, soit un mythe, soit la vérité, la réalité. Et on ne peut pas reconnaître en Jésus un maître de sagesse, etc., si on ne reconnaît pas la réalité des actes qu'il a accomplis. Et cette réalité, elle est attestée par les évangélistes, et elle est aussi un acte de foi que nous devons poser. Nous avons aussi à accueillir les miracles dans leur sens de révélation de la personne de Jésus, à la fois ce Messie qui était annoncé comme faiseur de miracles, ce prophète, puisque les miracles accréditaient sa parole, et comme fils de Dieu, puisque ces miracles montraient sa puissance supérieure à celle du diable, supérieure à celle des forces de la nature. Et donc, les miracles de Jésus nous remplissent d'une admiration vis-à-vis de ce Créateur qui est entré dans sa création et qui, quand il le juge bon, en obéissance avec son Père, intervient pour changer un peu le cours, ponctuellement changer le cours de la nature et de façon à pointer le fait qu'il est au-dessus de cela. Nous avons accueilli les miracles aussi comme signe de la grâce et de la compassion de Dieu. Et souvenons-nous de toutes ces personnes, Jésus est allé de lieu en lieu faisant du bien, délivrant, guérissant. Et combien il y a besoin aussi que cette bonté de Dieu soit vue et soit connue. Et ces miracles nous en sont un témoignage. Et enfin, comme anticipation de la délivrance définitive, absolue, éternelle qui est à venir. Alors volontairement ce matin, vous remarquerez que je n'ai pas posé la dixième question, c'est est-ce qu'il y a encore des miracles aujourd'hui ? Parce que ce serait un autre sujet. Mais ce que nous pouvons dire, et que je préfère ne pas aborder de façon trop rapide des sujets complexes, et je pense que c'est un sujet complexe qui mérite d'être traité en tant que tel, mais ce que je nous invite à faire, c'est quand nous lisons les évangiles et que nous voyons ces miracles qui se succèdent, à la fois dans leur variété, dans leur diversité, dans leur contexte, etc., de voir ces miracles comme étant cette révélation de Jésus-Christ, comme étant cette signe de cette grâce qui est venue jusqu'à nous, et comme aussi cette anticipation de ce jour où ce ne seront plus des miracles. Ce sera la réalité du quotidien quand, eh bien, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Satan lié, la vie éternelle acquise pour l'éternité, les maladies complètement éradiquées, une nature réconciliée, nous pourrons vivre en harmonie éternelle avec notre Dieu et avec son Fils Jésus-Christ qui s'est révélé à nous.